Cours de philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 17 novembre 1989, premier cours.
Substance et acte du corps en tant que qu'elle est acte du corps, elle le dépasse. Et elle permet au corps ce dépassement qui n'est plus corporel. Et c'est là où on voit la frontière, cette vision des néoplatoniciens. L'âme horizon du monde physique et du monde spirituel. Est-ce que ce n'est pas ce point de vue du lieu, l'horizon, vous voyez ? L'horizon qui enveloppe, l'horizon qui justement dans le monde physique est le point ultime. Et dans la philosophie moderne, le point de vue de l'horizon a été repris dans un sens très différent, c'est sûr, dans un sens beaucoup plus psychologique. Mais on a gardé le point de vue de l'horizon. C'est assez curieux du reste. Il est sûr que l'âme est l'horizon du monde physique et du monde spirituel. Et par l'âme, le corps va trouver une finalité qui dépasse le monde physique. L'âme porte le corps. Le corps est enveloppé par l'âme. Non seulement l'âme informe, mais l'âme enveloppe et le porte et le finalise et donne au monde physique une nouvelle finalité qui n'est plus physique et qui devient spirituelle. Là, on saisit comme une harmonie, un ordre à l'intérieur du monde physique qui dépasse le monde physique. Qui ne serait qu'un monde physique, d'une certaine manière, n'a pas de finalité. Je crois. Parce qu'il est pur mouvement, pur devenir. Donc il n'a pas de finalité. Sa finalité ne peut être que le vivant. Et la finalité du vivant, c'est l'esprit. Donc, il y a ce site très particulier, c'est que grâce à l'âme, on découvre ce qui finalise le corps. Ce qui donne au corps toute sa signification ultime. Sans l'âme, le corps n'a pas sa signification ultime. Il reste disposition, appel, les gémissements, l'Esprit Saint. C'est à partir du monde physique, c'est le monde du tenir. Il y a comme une espèce d'imperfection radicale du monde physique qui fait que le point de vue de la finalité n'est là que d'une façon tout à fait matérielle. Et donc du côté matériel, ce sera du côté de la disposition, un appel vers quelque chose de plus. Et cet appel ne peut être satisfait que par l'âme humaine. C'est l'âme humaine qui donne cette signification dernière. Alors, je relis pour que revenir sur ce fait que, à la différence du lieu des éléments physiques, l'âme est le lieu du corps. Bon, disons l'acte du corps, sans être le corps qui n'est qu'au corps, ou le corps maxime étalé. Il me semble qu'il y a là une réponse à ceux qui affirment que l'esprit existe, mais matériel. C'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, c'est la connaissance. Ça, il n'y a pas d'autre moyen. Donc il faut faire attention. C'est le point de vue matériel de l'esprit. C'est le point de vue de la connaissance. C'est le point de vue de l'amour. Vous voyez ? Parce que l'âme, acte du corps, et mesure du corps, mesure transcendante, mesure immobile, c'est sûr, donc qui dépasse le monde physique et qui oriente vers quelque chose d'autre. Et l'immatérialité de l'âme est donnée avant. Alors ça, c'est vrai de dire que tout le monde de la matière ne peut être finalisé que par l'esprit. Ça, c'est juste. On peut très bien dire ça. Mais ne disons pas parce qu'il le finalise, il est immatériel. Vous voyez, c'est l'inverse comme raisonnement. bien, puisque c'est l'occasion, vous voyez, avec vous, on lit tellement peu d'Aristote ensemble, c'est bien de lire un peu d'Aristote ensemble, à ce propos-là. Après ce qui précède, il nous faut aborder l'étude du temps. Donc nous l'avions vu, le périchronos. Difficulté sur l'existence du temps. Que d'abord, il n'existe pas absolument. Holos, dans sa totalité. C'est plos absolument, mais c'est plutôt dans sa totalité. C'est plus vrai de dire ça, qu'il n'existe pas dans sa totalité. On n'a qu'une existence imparfaite. Il n'a qu'une existence imparfaite et obscure. On peut le supposer d'après ce qui suit. Pour ma part, il a été et n'est plus. Pour l'autre, il va être et n'est pas encore. C'est là ce dont se compose et le temps infini et le temps indéfiniment périodique. Or, ce qui est composé de non-être semble ne pouvoir pas participer à la substance. Ça, c'est très intéressant à voir. Metekein ousias. Vous voyez que le mot participer est ici. Et c'est une participation. La physique est un des livres premiers d'Aristote. Le mot metekein, n'est-ce pas, est plutôt platonicien. La participation, elle a été inventée par Platon. Aristote la rejette en métaphysique. Mais Aristote ne la rejette pas dans l'ordre des difficultés, dans l'ordre des objections. Il ne la rejette pas en logique. Il ne la rejette pas en philosophie du vivant. Ici, c'est très curieux. Or, ce qui est composé de non-être semble ne pouvoir pas participer à la substance. Est-ce qu'on participe à la substance ? Posez-vous la question. Est-ce qu'on participe à la substance ? Au sens propre, on ne participe pas à la substance. Puisque la substance, c'est l'autonomie. On ne participe pas à l'autonomie. On participe à la bonté, à l'essai, mais pas à la substance. Et ça, c'est une objection. Il ne faut pas s'inquiéter. En outre, l'existence de toute chose divisible en tant que telle entraîne nécessairement l'existence de toutes ou de quelques-unes de ces parties. Or, les parties du temps sont les unes passées, les autres futures. Aucune n'existe et le temps est pourtant une chose divisible. Alors, vous voyez bien, tout de suite, on est en présence de quelque chose de particulier et d'unique. Le mouvement et le temps ont ce site particulier. C'est que jamais il n'existe holos, c'est-à-dire dans leur totalité. Ce sont des réalités qui n'existent que partiellement. Parce que ce que vous avez vécu ce matin est déjà passé. Alors vous le retenez dans votre esprit, mais il est passé, il n'est plus. Ce que va exister demain n'est pas encore là. Et il peut exister en vous, imaginativement et intellectuellement. Mais il n'est pas là. Et vous ne savez pas ce qui sera. D'autre part, l'instant, le tonun, l'instant, n'est pas parti. Huc meros. L'instant est indivisible. Alors, voyez, toute la question d'Aristote va être là-dessus. Ça va être la question du temps et de l'instant. Qu'est-ce que c'est qu'exactement le point de vue de l'instant par rapport au temps. Le tonun. Aristote va montrer que seul l'instant existe. Puisque le passé, le futur, n'existe pas. Donc le passé et le futur n'auront de sens que par rapport à l'instant. Ce qui seul existe. Et vous voyez, c'est très curieux, parce que en physique, on est dans l'ordre du devenir. et l'instant ne devient pas. Il est. D'autre part, l'instant n'est pas parti, car la partie est une mesure du tout, et le tout doit être composé de parties. Or, le temps, semble-t-il, n'est pas composé d'instants. En outre, l'instant qui paraît délimiter le passé et le futur, n'est-ce pas, est-ce qu'il subsiste un et identique, ou est-il toujours nouveau? Ce n'est pas facile à voir. Aristote pose sa plume. Ce n'est pas facile à voir, ça. C'est même très difficile à bien préciser. En effet, s'il est toujours différent, comme aucune partie d'une succession temporelle ne coexiste avec une autre, sauf pour les parties qui sont les unes enveloppantes, l'autre enveloppée, comme un temps plus court par un temps plus long, et comme ce qui actuellement n'est pas, mais a été auparavant, doit forcément avoir été détruit à un moment. De même aussi, les instants ne coexisteront pas les uns avec les autres, et celui qui précède sera forcément toujours détruit. Maintenant, détruit en lui-même, impossible, parce qu'alors il est. Mais être détruit en un autre instant, l'instant qui précède, ne le peut. Oui, la difficulté de saisir les liens entre l'instant, le passé et le futur. Les liens de savoir qu'est-ce que c'est que le temps. On voit des parties. Mais le temps, qu'est-ce qu'il est? C'est très joli comme approche, vous voyez. On prend les choses les plus connaissables pour nous. Le temps, l'instant. Et tout ça, c'est pas le temps. Ce sont des parties du temps. Le passé, le futur, l'instant. Est-ce que le temps est composé d'une succession d'instants, d'une multitude d'instants? Coller des instants les uns à côté des autres, vous aurez le temps. Eh bien, c'est pas ça du tout, le temps. Mais peut-être que l'instant est la brèche par où je vais pénétrer dans le temps, au plan philosophique. En effet, admettons-le, la continuité des instants entre eux, comme celle des points, est impossible. C'est sûr. On ne peut pas établir une continuité avec des indivisibles. C'est contradictoire. Les indivisibles, comme indivisibles, ne peuvent pas être en continuité avec un autre indivisible. La continuité est autre chose que l'indivisible. Oui, c'est la quantité discrète et la quantité continue. Fameux problème, hein, qui est un problème très intéressant au point de vue philosophique et qui n'est pas commun du tout. Le point de vue de la quantité continue, la grandeur, et puis la quantité discrète, l'indivisible, l'instant, le nombre. Si donc il n'est pas détruit dans l'instant consécutif, mais dans un autre, il coexisterait avec les instants intermédiaires, qui sont en fait en nombre infini. Or, c'est impossible. Maintenant, il ne peut pas davantage demeurer toujours le même. Vous savez bien, saint Thomas dit que l'instant subsistant serait l'éternité. Donc, il durerait toujours le même. Mais saint Thomas dit que ça, c'est imaginatif. Notre imaginatif se représente l'éternité par un instant substantiel, un instant qui dure toujours, la montre qui s'arrête, l'éternité. Ça reste toujours la même heure. C'est toujours impressionnante. Quand on entre dans une maison qui n'est plus habitée, et on voit la pendule qui reste fixée à cette heure. C'est resté fixe. Rien n'a changé. Et pourtant, le temps a continué. Mais la pendule s'est arrêtée. La différence entre la chose artificielle et la réalité physique. Maintenant, il ne peut pas demeurer toujours le même, car pour aucune chose divisible, limitée, suivant plusieurs. Or, l'instant est une limite et il est possible de prendre un temps fini. C'est le point de vue de la limite. Elle est pérasse. Tonun esti pérasse. Et le temps, donc, pour l'instant, est une limite. Il est impossible de prendre un temps fini. En outre, comme la coexistence, selon le temps, le fait de n'être ni antérieur ni postérieur, consiste en le fait d'être dans le même, entendez, dans le même instant. Si les choses antérieures et les choses postérieures sont dans cet instant, les événements vieux de 10 000 ans coexisteront avec ceux d'aujourd'hui, et rien ne serait plus antérieur ni postérieur. Cette vision d'éternité qui fait que toute l'acception du temps est présente dans l'éternité. Quand vous verrez Dieu, vous verrez toute la succession du temps. Et donc vous assisterez à la création. Bien que vous entrez dans l'éternité après la création. Il n'y a pas que les anges pour assister à la création dans le monde physique. Ça vous chagrine. Et vous voyez, Aristote sent ça, c'est ça qui est très extraordinaire. Il sent très bien cette chose-là. Que la succession du temps, nous sommes dans le temps, nous. Donc l'instant dans lequel nous vivons maintenant, cet instant qui passe à toute vitesse, cet instant dans lequel nous sommes, ne nous permet pas de vivre du passé ni du futur, mais si on était au-dessus du temps, et donc dans la mesure du temps, dans l'éternité, alors, l'éternité mesure le temps. Voilà donc suffisamment exposé les difficultés relatives aux propriétés du temps. Ça, c'est aussi très intéressant. Vous voyez, les difficultés viennent des propriétés. Aristote est très conscient de ce qu'il fait. Les propriétés, c'est toujours là où il y a le chef, les accidents, les propriétés. Voilà donc suffisamment exposé les difficultés relatives aux propriétés du temps. Quel il est et quelle est sa nature? La tradition n'éclaircit pas ici l'obscurité que nous avons trouvée dans le développement précédent. C'est aussi très intéressant ça de voir qu'Aristote dit ça. Donc, ti esti o chronos, ti aotos efuse. Donc voilà l'interrogation d'Aristote. Donc remarquons bien l'interrogation. L'interrogation d'Aristote est double. Je dis ça, c'est pour qu'on comprenne un peu le point de vue d'Aristote dans sa recherche. Donc, il y a les deux points de vue dans sa recherche. Il y a le ti esti. Le temps, la question est posée sur le temps, le tiesti du temps, et il donne aussi le point de vue de quelle est la phusis. Alors est-ce que c'est une question différente? Qu'est-ce que c'est que le temps et la nature de celui-ci? La phusis de lui-même. La nature du temps. Je crois que c'est la même chose. Hein. La nature, le testi. Il faut le besoin de donner les deux. Et il ajoute toujours, il ajoute tout de suite. Donc, la tradition philosophique ne dit rien là-dessus. Non. Alors c'est les paradédoménones. Donc tout ce qui représente les traditions des philosophes du temps d'Aristote. l'émission. Les apories, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh bien, la tradition n'éclaircit pas ici l'obscurité que nous avons trouvée dans le développement précédent. Les uns, en effet, prétendent que c'est le mouvement du tout qui est le temps. D'autres, que c'est la sphère elle-même. Or, la partie du mouvement circulaire est encore temps, oui, mais elle n'est pas, mais elle n'est plus mouvement circulaire. Car ce qu'on considère alors, c'est une partie du mouvement circulaire. Ce n'est plus un mouvement circulaire. Le souci d'Aristote, c'est de montrer que le temps est quelque chose d'autre que le mouvement, bien qu'ils peuvent coexister dans l'existence. Et même il coexiste toujours à l'essence. En outre, s'il y avait plusieurs cieux, le mouvement de l'un quelconque d'entre eux serait le temps, au même titre, et ainsi coexisteraient plusieurs temps. Il peut coexister plusieurs mouvements, mais peut-il coexister plusieurs temps? Vous êtes simultané à un autre. Donc vous êtes dans le même temps. Il n'y a qu'un seul temps. Les mouvements se multiplient et le temps reste un. Comment ça se fait, ça? Oui, des coureurs. Ils partent en même temps. Hein? Ben, c'est simultané. Ils partent en... On le dit du reste, ils partent en même temps. Donc ils sont dans un même temps et il y a plusieurs mouvements. Le même temps enveloppe plusieurs mouvements. Donc le temps et le mouvement, c'est pas la même chose. Mais c'est tout bête. C'est l'expérience. En outre, s'il y avait plusieurs cieux, donc le mouvement de l'un quelconque d'entre eux serait le temps au même titre. Et ainsi coexisteraient plusieurs temps. D'autre part, si la sphère du tout apparut à certains êtres le temps, c'est parce que tout est dans le temps et dans la sphère du tout. C'est là une théorie trop simpliste pour qu'on en examine les impossibilités. Pas la peine de regarder s'attarder là-dessus. Mais, puisque le temps paraît surtout être un mouvement et un changement, c'est cet aspect qu'il faut examiner. La plus grande difficulté, c'est de voir le rapport qui existe entre le temps et le mouvement. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le lieu est lié au mouvement circulaire. Le temps est lié au mouvement. Alors, quelle sera la relation exacte du lieu par rapport au mouvement? La relation exacte du temps par rapport au mouvement. C'est ça qu'Aristote va essayer de préciser, oui. Mais puisque le temps paraît surtout être un mouvement et un changement, c'est cet aspect qu'il faut examiner. Or, le changement et le mouvement de chaque chose sont uniquement dans la chose qui change, ou là où se trouve être la chose mue et changeante elle-même. Mais le temps est partout et en tous également. Voilà, première réalité. Première différence. Alors, notez, parce qu'au point de vue philosophique, c'est très intéressant, la manière dont Aristote, il le fait en métaphysique aussi, la manière dont Aristote voit deux choses qui sont très proches. Qu'est-ce qu'on va faire? Première distinction, la diaphore. Hein. L'intelligence est faite pour saisir les différences. Et l'intelligence est aiguisée quand elle saisit la diaphore, la différence. Comment saisir la différence de deux choses qui semblent toujours collées l'une à l'autre? Le temps et le mouvement, ça semble coller. Comment couper? Bien couper, pas avec un sécateur. Discerner la différence entre les deux. Bien, c'est la question de l'extension. Toujours. Aristote prend toujours la question de l'extension, en premier lieu. Quand Aristote essaie, par exemple, de distinguer le point de vue de l'être de la substance, je ne peux pas confondre être et substance. et il montrera que l'être a une extension plus grande que la substance. Il y a des choses qui existent et qui ne sont pas substance. Donc l'être et la substance, c'est différent. Il y a une diaphore entre les deux. La même chose entre l'être en acte et l'être en puissance. On ne peut pas identifier l'être et l'être en acte, puisque l'être en puissance. Et l'être en puissance n'est pas l'être en acte. Donc vous voyez, c'est toujours cette question de la diaphore. C'est très intéressant comme procédé. Pour voir clair dans un problème, employons le même procédé pour ne pas faire ces grosses confusions. Et c'est très élémentaire, ça. C'est, tout le monde peut faire ça. C'est un petit procédé très simple. Donc, le mouvement est dans le corps mou, c'est sûr. Vous n'avez jamais vu un mouvement. 6, kinésis, c'est mouvement. Donc on ne fait pas de changement, on ne fait pas de différence ici, il n'y a pas de diaphora entre les deux. Pour la question qu'on cherche. Alors nous allons maintenant préciser. Maintenant, le temps n'existe pourtant pas sans le changement. Donc, le temps n'est pas le changement, mais le temps n'existe pas sans changement. Il a un fil à la patte. Le temps a toujours un fil à la patte. Il est toujours lié au changement. En effet, quand nous ne subissons pas de changement dans notre pensée, ou que nous ne les apercevons pas, il ne nous semble pas qu'il se soit passé du temps. Et quand vous êtes chez le dentiste et qu'on vous laboure la mâchoire, alors là, vous avez le sens interne du mouvement et du temps. Ce que ça dure longtemps. Vous avez votre montre objective en face de vous, dites, mais quoi, non. Ça vous a semblé une éternité. C'est bien, c'est la même chose pour la nuit, tu vois. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus que tic-tac. Comme c'est long. Alors maintenant, le temps n'existe pas enfin, sans le changement. En effet, quand nous ne subissons pas de changement dans notre pensée, ou que nous apercevons pas, il ne nous semble pas qu'il soit passé du temps. C'est la même impression qu'ont à leur réveil les gens qui, d'après la fable, ont dormi à Sardes auprès des héros. Il relie en effet l'instant d'avant à celui d'après et font un seul, effaçant l'intervalle parce qu'il est vide de sensations. Oui, vous retrouvez l'intervalle, hein, comme pour le lieu. C'est très très curieux. Mais alors ici, l'intervalle imaginatif est supprimé. Le moment où vous vous êtes endormi, le moment où vous vous réveillez, quand votre sommeil a été profond, vous avez l'impression de vous réveiller au moment où vous êtes endormi. Parce que le sommeil était pour vous. S'il y a eu beaucoup d'agitation, s'il y a eu des cauchemars, vous n'avez jamais eu cette impression-là. Vous voyez, c'était intéressant de voir qu'Aristote nous fait, révèle un peu le monde de ses rêves, hein, de son sommeil. Et c'est curieux que pour le temps, on fait appel à l'expérience du sommeil. C'est très curieux. Donc une expérience interne. On n'a pas fait ça du tout pour le lieu, on le fait pour le temps. Le temps est beaucoup plus subjectif que le lieu. On s'aperçoit comment on peut gommer le temps. On peut gommer le temps si vous gommez le mouvement. C'est très intéressant au point de vue psychologique, ça. Les gens très agités imaginativement, le temps leur paraît très très long. Si vous êtes dans la contemplation, le point de départ où vous êtes arrivé au cœur, vous êtes arrivé, puis le terme, on a tapé, tiens, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de distraction, il y a eu un regard contemplatif, tiens, oh, déjà. Et celui au contraire qui est plein de distractions. Ah, enfin. Vous voyez comme c'est curieux. Mais là aussi, c'est tout de suite la différence entre les deux. Et avant, bien aussi, on dormit à Sardes, donc on dormit à Rimont, auprès des héros. Il relie en effet l'instant d'avant à celui d'après et en font un seul. effaçant comment l'intervalle, parce qu'il est vide de sensation.
C'est très très joli ça.
Si donc l'instant n'était pas différent, mais identique et unique, il n'y aurait pas de temps. Mais le truc pour gommer le temps. Alors ça te donne le truc pour gommer le temps. Quand on trouve que c'est un peu trop long, l'attente, on attend à la porte d'un supérieur, ça arrive. Il faut gommer le temps pour ne pas s'impatienter et pour rester fidèle. De même, alors vous gommez le temps quand vous arrivez à gommer le point de vue des sensations. De même, quand sa variation échappe, il ne semble pas qu'il y ait un temps intermédiaire. Ainsi, puisque s'il nous arrive de ne pas penser qu'il s'écoule du temps, c'est quand nous ne déterminons changement et que l'âme paraît durer dans un état unique et indivisible, puisqu'au contraire, c'est en sentant et déterminant que nous disons qu'il s'est passé du temps. On voit qu'il n'y a pas de temps sans mouvement ni changement. Il est donc clair que le temps n'est ni le mouvement ni sans le. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, c'est Phanéron, c'est évident. L'expérience, il fait appel à l'expérience. Donc, que le temps n'est pas la kinésis, et d'autre part, qu'il n'existe pas sans kinésis. Le cours suivant, on sera dans la définition.